de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Sejuritak, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président Joko Widodo reçoit les lettres de créance de 12 ambassadeurs de pays amis. Sandy Uno a apprécié la sélection du village touristique de Penglipuran comme meilleur village touristique. OIKN propose un investissement dans le développement des infrastructures d'IKN à l'Arabie Saoudite. L'Indonésie est capable de gérer l'économie face à divers chocs mondiaux. Les produits indonésiens de qualité supérieure sont capables de rivaliser sur le marché tunisien. Le ministère de l'Industrie a invité 6 entreprises industrielles à participer à l'ITAP 2023. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a reçu les lettres de créance de 12 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires des pays amis. Les ambassadeurs sont venus à tour de rôle et ont été accueillis par une garde d'honneur dans la cour du Palais Merdeka dans le centre de Jakarta lundi 23 octobre. La remise des lettres de créance a eu lieu dans l'espace d'information d'identification au Palais Merdeka, Jakarta. Les ambassadeurs ont remis à tour de rôle des lettres de créance au président Joko Widodo. La remise des lettres de créance a marqué le début des missions officielles des ambassadeurs indonésiens. Les ambassadeurs sont entre autres de l'Angleterre, de l'Iran, du Brésil et de la Suède. Le ministre du Tourisme et de la Communication Créative, Sandiaga Uno, a exprimé son appréciation pour la sélection du village touristique de Penglipuran, Bali, comme meilleur village touristique par l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Le village touristique situé en résidence de Bangli a été sélectionné avec succès parmi 260 candidats de plus de 60 pays enregistrés. Dans le bref hebdomadaire avec Sandi Uno à Jakarta, lundi 23 octobre 2023, Sandiaga Uno a déclaré qu'au début, personne ne considérait que les villages touristiques pourraient devenir une locomotive pour la relance du tourisme post-pandémique. Cependant, selon Sandiaga Uno, les villages touristiques qui basés sur la sagesse locale et impliquent la communauté sont en réalité capables de donner une image du monde, car grâce aux villages touristiques, les champions locaux sont devenus des champions du monde. Les villages touristiques constituent une partie importante de l'écosystème qui ne peut être sous-estimée. Au début, personne ne pensait que les villages touristiques pourraient devenir une locomotive pour la relance de notre tourisme après la pandémie. Il s'avère que les villages touristiques montrent que le tourisme n'appartient pas seulement à tout le monde, mais au monde entier, à l'Indonésie de qualité et durable. Le tourisme n'appartient pas seulement aux personnes qui ont de l'argent, mais le tourisme appartient également à la communauté. Les villages touristiques basés sur la sagesse locale impliquent les communautés locales et sont capables d'attirer l'attention du monde entier. Grâce aux villages touristiques locaux, des champions naissent et peuvent devenir champions du monde. Sandiaga Uno a en outre déclaré qu'il existe 3 autres villages touristiques en Indonésie qui sont inclus dans le programme de mise à niveau des meilleurs villages touristiques de l'OMT, à savoir le village de Bila Bante, Nusa Tenggara Ouest, le village de Pela, Kalimantan Oriental, et le village de Taro, Bali. Selon Sandiaga Uno, les 3 villages recevront une formation et une assistance en partenariat afin que ces 3 villages touristiques deviennent le meilleur village touristique au cours de l'année à venir. L'autorité de la capitale de la Nusantara, OIKN, propose à l'Arabie Saoudite des investissements dans le développement des infrastructures de la capitale nationale IKN de Nusantara. Le député chargé du financement et de l'investissement à l'OIKN, Agung Wicaksono, dans sa déclaration à Jakarta, lundi a déclaré que l'Arabie Saoudite est le pays où la religion islamique est née et que l'Indonésie est le pays avec la plus grande majorité de la population musulmane au monde. Agung a souligné l'importance de l'Arabie Saoudite en tant que partenaire d'investissement stratégique de l'Indonésie, en particulier dans le développement de l'IKN. Selon Agung, les secteurs d'investissement proposés sont les énergies renouvelables, les résidentiels, les infrastructures de connectivité, l'écotourisme et l'agriculture aux investisseurs saoudiens potentiels. La ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré qu'Indonésie avait la capacité de gérer l'économie pour surmonter divers chocs mondiaux. Elle s'est référée à un certain nombre de crises mondiales qui ont eu lieu en impact sur l'économie, telles que la pandémie de COVID-19 et les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine. Ces deux crises ont provoqué un grand choc dans de nombreux pays, dont certains ont eu du mal à se relever et d'autres ont même connu un effondrement. Tandis que l'Indonésie affiche actuellement des performances économiques relativement stables. C'est ce qu'a déclaré Sri Mulyani lors d'une conférence publique à l'Université Diponegoro de Semarang dans le centre de Java, qui était surveillée en ligne à Jakarta lundi. Selon Sri Mulyani, non seulement en maintenant la stabilité, l'Indonésie peut également créer l'égalité pendant la pandémie de COVID-19. Lorsque la croissance économique s'est contractée, l'Indonésie a pu créer 6,8 millions d'emplois pendant la période de reprise de 2021-2022. Réduisant ainsi le taux de chômage à 5,45% en 2023. L'ambassadeur de l'Indonésie en Tunisie, Zuhairi Misrawi, a déclaré que l'Indonésie dispose de produits de qualité supérieure qui peuvent être exportés et capables de rivaliser sur le marché tunisien. L'ambassadeur Zuhairi Misrawi, comme indiqué lundi dans un communiqué de l'ambassade d'Indonésie à Tunis, a déclaré que les exportations de l'Indonésie vers la Tunisie dépassaient celles de plusieurs autres pays de l'ASEAN. Cette déclaration a été transmise par l'ambassadeur Zuhairi lorsqu'il était l'un des orateurs de la session de la série du dialogue des ambassadeurs sur l'augmentation des exportations vers les pays non traditionnels avec des ambassadeurs indonésiens en Bosnie, au Kenya, au Pakistan et en Algérie. À l'exposition commerciale indonésienne qui s'est tenue du 18 au 22 octobre à AIS BSD, Tangerang du Sud, Banten. À cette occasion, l'ambassadeur Zuhairi Misrawi a fait part de son expérience dans l'augmentation des exportations de l'Indonésie vers la Tunisie. Il a déclaré que les exportations de l'Indonésie vers la Tunisie connaîtront une augmentation significative en 2022. L'ambassadeur Zuhairi a souligné que la Trade Expo Indonésie 2023 était un moment de grande fierté car elle a réussi à promouvoir les produits indonésiens auprès des entrepreneurs de divers pays. Le ministère de l'Industrie a invité 6 entreprises industrielles à démontrer leur capacité lors de la 6e transformation industrielle Asie-Pacifique, ITAP, à l'exposition de Singapour du 18 au 20 octobre 2023. Le directeur général de l'industrie des métaux, des machines, des équipements de transport et de l'électronique, Ilmate, du ministère de l'industrie, Taufik Bawazir, a déclaré lundi dans un communiqué à Jakarta qu'à travers le pavillon indonésien, le ministère de l'industrie était présent comme l'un des 300 participants à l'exposition universelle. Lors de cet événement, sa partie a réuni 6 entreprises et a présenté le service d'accélération de l'industrie 4.0 pour le secteur manufacturier en Indonésie par le biais du Centre indonésien de l'industrie numérique 4.0. C'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, pour l'article suivant, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Perspective pour les produits halal indonésiens ». La population musulmane dans le monde était près de 2 milliards, dont la plupart sont répartis en Afrique du Nord, en Asie occidentale et en Indonésie. Selon les données de la revue de la population mondiale, l'Indonésie occupe la première place avec la plus grande population musulmane au monde. Au total, d'environ 231 millions de personnes en Indonésie adhèrent à l'islam. En tant que pays avec la plus grande population musulmane, les produits halal indonésiens ont un énorme potentiel d'exportation vers des pays comptant une importante population musulmane. Cela créera des bonnes opportunités commerciales internationales. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, lors de la cérémonie remise des prix de l'industrie halal indonésienne ISYA 2023 à Jakarta, lundi 23 octobre, a déclaré que l'Indonésie était devenue un exportateur net ou exportateur mondial de produits halal et la nouvelle source de croissance économique. D'après le rapport indonésien sur les marchés halal 2021-2022 soumis par la Banque d'Indonésie ou BI en 2020, l'Indonésie a exporté des produits halal pour une valeur totale de 46,7 milliards de dollars américains qui comprennent des produits alimentaires, de la mode, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques à l'échelle mondiale. Pendant ce temps, les importations de produits halal en 2020 représentaient 14,5 milliards de dollars américains. Tandis que les exportations de produits halal indonésiens vers les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, ont atteint 48,3 milliards de dollars américains en 2021 et devraient atteindre 53,8 milliards de dollars américains en 2022. Le gouvernement indonésien soutient fermement l'écosystème pour la croissance et le développement de l'industrie halal nationale. Cela se reflète dans diverses politiques prises par le ministère de l'Industrie, par exemple en incluant l'autonomisation industrielle halal dans le cadre de la politique industrielle nationale, KIN, stipulée dans le règlement présidentiel numéro 74 de 2022 concernant la politique industrielle nationale pour 2020-2024. Il est important d'adopter cette politique pour aider l'Indonésie à maintenir sa position comme leader économique mondial de la charia qui continue d'afficher des évolutions positives d'année en année. Une collaboration et une synergie forte entre les parties prenantes sont nécessaires pour accélérer la croissance des produits industriels halal. La raison en est que l'Indonésie vise à devenir le centre de l'industrie halal mondiale. Les efforts du gouvernement pour promouvoir et faire de l'Indonésie un exportateur net ou un exportateur mondial de produits halal et une source de nouvelle croissance économique seraient certainement loin d'être optimaux sans les efforts des acteurs du secteur des produits halal. La créativité et l'innovation sont nécessaires pour créer des produits halal capables d'attirer le marché mondial. En dehors de cela, le soutien de la communauté en tant que consommateur de produits halal est réellement nécessaire. Les gens doivent être encouragés à utiliser des produits halal nationaux. Grâce à ces divers efforts, les produits halal indonésiens auront de brillantes perspectives de croissance sur les marchés nationaux et internationaux. C'est Rita, c'était le commentaire pour ce soir. C'est Rita, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 24 octobre 1945, la Charte des Nations Unies entre en vigueur. Les Nations Unies ont été créées pour promouvoir la coopération internationale. La Charte des Nations Unies et la Constitution des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945 par les 50 membres originaux des Nations Unies. Cette charte est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Le 24 octobre a ensuite été commémoré comme la Journée des Nations Unies. Cette communication a été déclarée en 1947 par l'Assemblée générale des Nations Unies. La Journée des Nations Unies est célébrée pour informer le public des objectifs et des réalisations des Nations Unies. La Journée des Nations Unies est célébrée dans le monde entier avec diverses réunions, discussions et expositions sur les réalisations et les objectifs des Nations Unies. Passons maintenant à l'événement sur la commémoration de la Journée nationale du médecin. La Journée nationale du médecin est célébrée chaque année le 24 octobre. Ce jour marque la fondation de l'IDI, ou Association des médecins indonésiens, le 24 octobre 1950. L'IDI a officiellement obtenu la légalité devant notaire à cette date. La Journée nationale du médecin a été créée comme une forme d'appréciation des services rendu par les médecins à la communauté. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée mondiale contre la polio. La Journée mondiale contre la polio est célébrée chaque année le 24 octobre. Cette journée a été créée pour commémorer les efforts mondiaux en faveur d'un avenir sans poliomyélite, ainsi que les services rendus par les personnes travaillant à l'éradication de la polio dans le monde. Le Rotary International a institué la Journée mondiale contre la polio pour commémorer la naissance de Jonas Salk, le chef d'équipe qui a créé le premier vaccin contre la polio. La date sélectionnée coïncide avec la date de naissance de Jonas Salk. La polio ou poliomyélite est une maladie infectieuse causée par le poliovirus. Le poliovirus se propage par la nourriture, l'eau potable et les mains contaminées par les excréments et les mucosités. La vaccination est le seul moyen de prévenir la maladie. C'est Jolita, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Meskipun nanti tak hitam lagi, bila habis sudah waktu ini tak lagi berpijak. Pada dunia telah aku habiskan, sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah sisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée « Président reçoit les lettres de créance de 12 ambassadeurs des pays amis » avec Maudry. Sans plus tard, le président Joko Widodo a reçu les lettres de créance de 12 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires LBBP des pays amis. La présentation des lettres de créance a eu lieu dans la salle des lettres de créance Palais Merdeka Jakarta le lundi 23 octobre 2023. Les 12 ambassadeurs des pays amis reçus par le président Joko Widodo étaient composés de 9 ambassadeurs extraordinaires, résidents désignés, à savoir l'ambassadeur indien Sandeep Chakravorty, l'ambassadeur de Brésil, l'ambassadeur de Royaume de Suède, l'ambassadeur de Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, et l'ambassadeur d'Irlande du Nord, l'ambassadeur de l'Argentine, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran et l'ambassadeur de la Slovaquie, l'ambassadeur de la République de Chypre et l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie. Pendant ce temps, les 3 autres sont l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire désigné non résident domicilié à Tokyo, Japon, à savoir l'ambassadeur de la Jamaïque, l'ambassadeur d'Islande et l'ambassadeur de la République dominicaine. Sur le compte YouTube officiel du secrétariat présidentiel, l'ambassadeur indien Sandeep Chakravorty a déclaré que l'Indonésie et l'Inde célébraient le 75e anniversaire des relations diplomatiques en 2024. Il a expliqué qu'en exerçant ses fonctions d'ambassadeur indien en Indonésie, il intensifierait les relations entre l'Indonésie et l'Inde et s'efforcerait d'établir une connectivité entre les deux pays dans les secteurs du tourisme, des nouvelles technologies de la croissance verte durable et des véhicules électriques. L'ambassadeur brésilien Jorge Monteiro Prata a expliqué que le Brésil et l'Indonésie ont de nombreux intérêts similaires dans divers domaines, tels que le commerce, la coopération en matière d'investissement, la sécurité alimentaire, l'agriculture durable et les questions environnementales. Selon lui, le Brésil et l'Indonésie jouent un rôle important en tant que leader dans les régions respectives. La coopération dans le secteur alimentaire et énergétique est également au centre des préoccupations de l'ambassadeur argentin Gustavo Ricardo Copa. L'ambassadeur suisse Daniel Blocher a, quant à lui, déclaré qu'il était au bon moment, car l'Indonésie organisera des élections législatives l'année prochaine. Selon lui, la transition démocratique de l'Indonésie pourrait être une référence que d'autres pays pourraient suivre. La coopération dans le domaine de l'éducation est l'une des priorités qui sera renforcée par l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Dominic James Robert Jeremy.
Saya ingin memperkuat hubungan bilateral, khususnya di bidang perdagangan.
Je veux renforcer les relations bilatérales dans le domaine du commerce, des investissements bilatéraux, dans le domaine du changement climatique. Et je sais aussi que les ressources humaines de l'Indonésie sont la priorité numéro un du président Joko Widodo. C'est pourquoi la priorité des relations est également liée à l'éducation. J'attends vraiment avec impatience notre prochaine collaboration. Je suis prêt à collaborer avec des partenaires et amis de Sabah et Merauke, continuer à avancer l'Indonésie et l'Angleterre. Ensemble, nous pouvons y parvenir. L'éducation est également l'un des axes des relations entre l'Indonésie et l'Union européenne. Selon l'ambassadeur de l'Union européenne, Denis
Chabi, davantage d'étudiants indonésiens auront la possibilité d'aller en Europe et vice-versa, de l'Europe vers l'Indonésie. L'ambassadeur de la République d'Iran, Mohamed Baroujerdi, l'ambassadeur de la Jamaïque, Shorna K. Marie Richards, l'ambassadeur d'Islande, Stefan Aukur Johannesson, et l'ambassadeur de la République dominicaine, Robert Miki Takata Pimentel, ont également exprimé leur optimisme quant aux relations bilatérales de plus en plus solides. Par ailleurs, l'ambassadeur de la République de Chypre, Nicolas Panayiotou, a expliqué que la remise des lettres de créance au président Joko Widodo marquait la réouverture de l'ambassade de Chypre en Indonésie. Bon, chers auditeurs, c'est tout, mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Mungkin kau bagi cintamu
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la tradition de Roa Segare Lombok. La majorité des Indonésiens travaillent comme agriculteurs et pêcheurs. Il n'est donc pas surprenant qu'il existe diverses traditions étroitement liées à la profession de cette communauté, comme par exemple la tradition de Roa Segare est toujours pratiquée par les habitants de Lombok à l'ouest de Nusa Tenggara. Cette tradition est une forme de gratitude de la communauté de pêcheurs du village de Kuranji Dalang envers de Dieu pour les produits marins abondants. Roa Segare a lieu chaque mois de Muharram dans le calendrier Hijri. Lors de la tradition de Roa Segare est effectuée, la communauté de pêcheurs de Labu Api se pressait sur la place de Kuranji. Ils continuent de perpétuer cette tradition de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, un guise de gratitude. Également parce qu'ils ont été tenus à l'écart de toutes sortes de catastrophes. La procession de Roa Segare est commencée par la lecture de Barzanji, Selakaran, Zikiran et des prières à Dieu. Ensuite, continuez à prier pour que le dulang penamat ou les offrandes soient apportées à la place, ensuite et rejetées à la mer. Le processus de larron est un symbole de la gratitude de la communauté des pêcheurs pour les produits marins abondants. Après la procession de larron, un repas est servi à la communauté et aux invités avec les plats qui ont été priés. Ils pratiquent la tradition du begibung ou mangent ensemble dans un grand récipient. Manger ensemble est une forme de convivialité et de parenté pour les pêcheurs de la place de Kuranji. Dans la tradition de Roa Segare, plusieurs dispositions traditionnelles doivent être respectées. Par exemple, les pêcheurs ne sont pas autorisés à aller pêcher en mer pendant 3 jours après le rituel de Roa Segare. Il s'agit de laisser à la mer le temps de récupérer un instant, après tout ce temps pris par les pêcheurs. S'il n'est pas respecté, on estime les pêcheurs seront confrontés à un désastre. Après 3 jours, les pêcheurs peuvent reprendre la mer avec un espoir et un nouvel enthousiasme, à savoir obtenir une pêche abondante. Chers amis, c'était magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Takkan pernah ku tinggalkan kau sendiri. tersenyumlah agar ku tahu kau bahagia bersamaku. Bernyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu itu. Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. That when I say I love you, I really do. You know I really, really do. Suara indahmu itu, jangan kau ragu, mengertilah ku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. I really do. Cinta yang sama. You know I really, really do. Oh no, no. Ku hanya ingin kau untuk percaya. Ini bukan sekedar kata-kata. Cinta yang sama. Sorry, really do.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, solitaires, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Sering Makan. Sering Makan. Tu manges souvent. Bon écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation intitulé Sering Makan. Sering Makan. Tu manges souvent. Cette conversation se déroule entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et Sortawli, une amie de la communauté vlog de Chris, au lac Singkarak. Sortawli a invité Chris à manger des plats de poisson bili
autour des lacs Singkarak. Bon, écoute.
Selanjutnya, kita ke Danau Singkarak.
Ya, nanti kita makan ikan bili goreng di sekitar Danau Singkarak.
Kamu sering makan di situ?
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulées « Sering makan ».« Sering makan », »« Tu manges souvent ». Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase, deux fois, et puis vous pouvez me répéter. « Kamu »« Kamu »« Tu »« Sering »« Sering »« Souvent »« Makan »« Makan »« Manger » »« D'ici tout » Di situ, laba, ui. Kamu sering makan di situ. Kamu sering makan di situ. Tu y manges souvent. Selanjutnya. Selanjutnya, ensuite. Danau Singkarak. Danau Singkarak. Lac Singkarak. Ikan bilih goreng. Ikan bilih goreng. Poisson bilih frit. Di sekitar. Di sekitar. Dans l'entourage. Chers amis, dans cette conversation, vous avez entendu la phrase « Kamu sering makan di situ ?»« Kamu sering makan di situ ?»« Tu y manges souvent ?» Dans cet énoncé, il y a un adverbe « sering »,« sering »,« souvent ». Le mot « sering »,« sering »,« souvent » marque la fréquence d'une activité qui est effectuée. Dans cet énoncé, l'expression « sering makan »,« sering makan »,« mange souvent », est utilisé pour exprimer la fréquence de manger à plusieurs reprises ou plusieurs fois. Chers amis, un autre exemple. Allez écouter des exemples d'utilisation du mot sering, sering, souvent, dans d'autres phrases. Chris sering berkunjung ke Indonesia. Chris sering berkunjung ke Indonesia. Chris visite souvent l'Indonésie. Sortauli sering menulis pengalamannya di blog. Sortauli sering menulis pengalamannya di blog. En français, Sortauli écrit souvent sur ses expériences sur le blog. Le poisson Billy est un poisson endémique qui vit dans le lac Singkarak. La longueur d'un poisson Billy adulte peut atteindre 10 cm. Il a un goût délicieux alors qu'il est frit pour que beaucoup de gens l'aiment. Le poisson Billy peut être frit, sec ou cuit avec n'importe quelle épice. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Selanjutnya, kita ke Danau Singkarak.
Ya, nanti kita makan ikan bili goreng di sekitar Danau Singkarak.
Kamu sering makan di situ?
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Yang tak akan mengerti yang sebenarnya di hati, tapi ketika kau ada di sini seolah tak peduli, tetapi kau pahami. Sedih saat kau menangis, tetap sama bahagia. Ku rasa apa yang kamu rasa. Dunia sangat indah. Ku ada karena kau ada. Kau berarti dan tak akan terkalahkan.
berganti. Berjuta orang di dunia yang kutemui, tapi tidak ada yang seperti kamu. Mengerti dan menerimaku apa adanya. Meskipun nantinya kamu pergi jauh, kamu harus tahu aku akan
seolah tak peduli, tetapi ku pahami. Sedih saat kau menangis, tertawa bersama bahagia. Ku rasa apa yang kamu rasa. Dunia sangat indah, ku ada karena kau ada. Kau berarti dan tak akan terganti. Berada bersama
amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33.5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Voici le magazine musical. Dans cette édition, je vous donne une chanson malaise intitulée Tanjung Pinang Tepi Laut, chantée par Waade Rizky Dwi Meilia. Tanjung Pinang Tepi Laut a été créée par Roby Agustiar. Comme son titre, cette chanson raconte de la ville de Tanjung Pinang, la capitale de la province des îles Riau. Les paroles disent que la ville de Tanjung Pinang est située au bord de la mer, en face de l'île de Penyangat. Cette chanson raconte également que tous les rêves ne peuvent pas se réaliser. Bon, chers auditeurs, voici Tanjung Pinang Tepi Laut de Waade Rizky Dwi Meilia. Bonne écoute!
Thank you.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web, www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.